Je vais commencer cette avant-dernière séance. Bon, cette fois-ci, me centrant enfin sur le métabolisme, plus tôt que je vous l'annonce, et donc son évolution, évidemment, et les implications neuropsychiatriques des perturbations du métabolisme. Et je vais commencer par un article assez ancien de 2007 par Haygood et ses collègues. Donc, ce papier qui a été publié dans Nature Genetics en 2007 rappelle en introduction ce que vous savez déjà, que les différences cognitives, comportementales et diététiques entre les chimpanzés et nous sont considérables, hein, et qu'elles l'étaient dès avant l'invention de l'agriculture ou de la lecture. C'est quelque chose qui est extrêmement ancien. De ce fait, de nombreux gènes qui sont impliqués dans la cognition ou la nutrition ont été étudiés du point de vue de la recherche d'une sélection positive, c'est-à-dire d'une sélection directionnelle et de la sélection de modifications qui apportent un plus à chacune des espèces, d'ailleurs, comme vous allez le voir. Cet effet est un succès mitigé, parce que quand je dis des gènes, je veux dire des gènes, des séquences codantes. Cet effet est un succès mitigé. Et en fait, les séquences codantes qu'on a pu voir évoluer le plus rapidement sont du côté du système immunitaire, de l'olfaction et de la spermatogénèse. Donc, ce qui amène évidemment, comme d'habitude, à poser la question des séquences régulatrices. Alors, par souci de simplicité, à l'époque, on était en 2007, les auteurs se sont concentrés sur les séquences en 6, c'est-à-dire celles qui sont juste en avant des séquences codantes, hein, à côté de ce qu'on appelle les sites d'initiation de la transcription, les TSS. C'est-à-dire des régions sur lesquelles les protéines se fixent pour réguler la transcription des gènes qui sont juste en aval. À ces séquences qui sont donc très proches des sites d'initiation de la transcription, on a ajouté les introns, des séquences introniques. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gènes sont séparés en exons et en introns. Voilà un gène, un deuxième gène, une région intergénique. Là, ici, vous avez donc les régions de type transcription starting site. Et puis, ils ont pris aussi les régions introniques, celles qui sont soumises après un épissage. Et ils ont aussi rajouté les séquences de fin et de début d'intron, et surtout de fin d'intron, parce que c'est justement à ce niveau-là que nous avons les signaux pour l'épissage. Et donc, si ces signaux d'épissage se modifient ou s'ils évoluent, vous allez avoir la sélection de formes épicées particulières. Et comme vous le savez, ces formes qui sont des formes spécifiquement épicées, dans telle ou telle espèce, peuvent jouer un rôle très important. Je vous rappelle à titre d'exemple deux gènes dont je vous ai parlé, sinon la semaine dernière, la semaine d'avant, je ne sais plus très bien, à vrai dire. Par exemple, MAGO, M-A-G-O-H, qui est une enzyme qui est impliquée dans l'épissage au niveau du cerveau et dont la mutation conduit à un phénotype de microcéphalie, les petits cerveaux. Et puis, il y en a un autre exemple que j'ai donné aussi au cours de ces cours, c'est l'exemple de la liprine, qui a un pattern d'épissage spécifique de l'espèce humaine et qui joue un rôle très important dans le développement des domaines présynaptiques, en tout cas dans l'organisation de la synapse et en particulier dans l'ancrage du récepteur glutamatergique de type AMPA. Rappelez-vous, je vous ai raconté ça il y a 15 jours, mais je ne sais plus très bien. Donc, pour commencer, les auteurs ont donc essayé d'aligner les séquences et les régions promotrices et introniques dont je viens de vous parler de 16 900 gènes ou 900 quelque chose, 903 gènes, 905 gènes, entre Sapiens et Troglodytes, qui est donc un chimpanzé, le bonobo, hein, Pan Troglodytes, et aussi le macaque, Macaque mulata, comme groupe externe. Hein. Je vous rappelle que le groupe externe est toujours important. Si j'ai une différence entre le chimpanzé et Sapiens, eh bien, il faut que je sache si c'est Sapiens qui a changé ou le chimpanzé. De ce point de vue, un groupe externe est intéressant. Et là, le groupe externe est donné par un animal qui s'est encore divergé beaucoup plus tôt, il y a environ, je crois, 60 millions d'années, et qui est donc le macaque. Donc, pour des raisons de manque de données fiables à l'époque, au niveau des séquences en particulier, l'affaire s'est réduite de quelques 16 000 à 6 000 gènes, 6 280. Et donc, sur ces 6 280 gènes, c'est quand même un gros tiers du génome. Hein. C'est pas mal, ça fait entre un tiers et un quart du génome. Hein. Environ 250 montrent une sélection positive. C'est-à-dire on pourrait dire que pour 800 gènes, si on multiplie par 3 quelque chose, il y a environ 800 gènes donc, qui ont montré une sélection positive, c'est-à-dire un peu moins de 5% du génome. Hein. Donc les logiciels qu'on utilise, le logiciel Panther ou Geneontology, permettent d'identifier les catégories auxquelles ces gènes appartiennent. Donc voilà ici avec ce logiciel Panther. Eh bien, vous voyez que ces catégories sont des gènes de la neurogénèse. Hein, ça, c'est quelque chose qui est assez évident. Il y a de la place devant, là. Vous pouvez, hein, soyez pas timide. Jean-Pierre, si tu veux venir t'asseoir. Non. Donc, des gènes de la neurogénèse, des gènes du fonctionnement synaptique, plus des gènes du métabolisme énergétique. Et là, vous les voyez ici. Vous les avez ici, ces grandes catégories. Transport d'anions, oncogène, vision, synapse, bon, développement, métabolisme des carbohydrates, activité neuronale, glycolyse, neurogénèse, etc. Bon. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez aussi une évolution chez le singe. Hein. C'est-à-dire que le singe ne s'est pas arrêté d'évoluer il y a 6 millions d'années. Lui aussi, il est parti de son côté. Et donc, ça, c'est intéressant de voir que chez les chimpanzés, on a aussi des gènes des mêmes catégories. Bon, dénarification, métabolisme du carbohydrate, transport, neurogénèse. Donc, ce n'est pas uniquement chez nous, sauf que ce sont des mutations, vous allez voir, ce sont des évolutions qui sont différentes dans les deux sens. Et si je prends par exemple 31 gènes neuronaux qui ont un haut score dans les deux espèces cumulées, hein, bien entendu, seulement 5 sont communs aux deux espèces. D'accord ? Et sur les 45 gènes du métabolisme énergétique qui ont bénéficié d'une évolution positive, eh bien, il y en a seulement 7 de communs entre les deux espèces. Donc, chacun est parti de son côté, avec des gènes qui ont évolué dans les deux lignages, et des gènes qui n'ont évolué que dans un lignage, de notre côté ou du côté des chimpanzés. On n'a pas laissé le singe derrière nous. Hein. Un est parti à droite et l'autre est parti à gauche. Voilà. C'est nous qui avons gagné. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, alors, vous voyez ici, là, ça, c'est les gènes qui ont évolué chez le singe. Puis ça, c'est chez Sapiens. Donc, voilà. Donc, si je décris les principaux gènes qui ont évolué rapidement chez nous, hein, ce n'est pas les gènes, là, c'est les régions régulatrices, hein, c'est-à-dire ce qui est en 5' devant le premier exon et les séquences introniques et les séquences de régulation du splice au niveau des introns. Eh bien, vous voyez tout de suite que vous avez des gènes qui sont impliqués, par exemple, dans l'apprentissage et la mémorisation, dont la mutation provoque des retards mentaux, des récepteurs au BDNF, c'est un facteur de croissance qui est très important pour tout le développement du système nerveux et son fonctionnement adulte. Ces mutations entraînent des ordres de l'humeur. Vous avez des enzymes qui sont des enzymes de débubiquitination, donc ça c'est très important parce que c'est des enzymes qui régulent la dégradation des protéines. Vous avez des gènes comme la syntaxine A, qui est un des gènes qui est muté dans certains cas d'autisme. Donc, vous voyez, je peux vous les décliner les uns derrière les autres. Vous voyez que ce sont des gènes qui sont tous importants et pour lesquels il y a des maladies qui sont associées, bien entendu. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis là. Et si je regarde les gènes métaboliques, il y en a une grande quantité et vous voyez que ces gènes métaboliques sont des gènes qui sont impliqués dans la glycolyse, hein, l'exokinase, la glycokinase. Ça, c'est la transformation très importante du malate en pyruvate. Et puis, deuxième étape, troisième étape, donc, évidemment, les mutations dans les gènes du métabolisme ou des mutations dans un glucagon-like comme peptide peut entraîner des modifications des maladies de type diabète, mais aussi, bien sûr, des maladies mentales. Vous voyez ici, par exemple, surdité, cataracte, retard mental. Là, c'est sur l'insuline. Là, vous avez le métabolisme adipocyte, mais aussi l'angiogénèse, dont, évidemment, les problèmes d'angiogénèse sont fortement délétères pour ce qui est du développement du système nerveux. Là, de nouveau, on a la conversion lactate-pyruvate. Ça, c'est absolument important. Et j'y reviendrai très probablement dans la semaine prochaine. Donc là, c'est la fabrication de l'émail, de la dent. C'est important par rapport au régime alimentaire, bien entendu. Et puis, le tube digestif, etc. etc. Donc, ça nous fait une liste, si vous voulez, de gènes dont nous pouvons imaginer, en 2007, bien entendu, qui sont impliqués dans ce qui rend notre espèce un peu particulière. Il y en a d'autres, hein, vous allez voir, il y en a d'autres, mais d'une façon générale, et comme je l'ai souvent dit depuis maintenant cette semaine, eh bien, les deux massifs principaux sont le métabolisme et le système nerveux, en tout cas la construction et le fonctionnement des circuits du système nerveux. Donc, je vais repartir de la piste métabolique, je m'y attarder un petit peu, et pour ça, je vous présente cet article de Keikovich et de ses collègues, qui est sorti en 2008 hein, dans Genome Biology, qui, eux, se sont intéressés aux modifications métaboliques dans la schizophrénie et au cours de l'évolution. Donc, ils rappellent ce que nous savons, que depuis 5 à 7 millions d'années, le cerveau a changé considérablement, hein, et que cela est important de comprendre ce qui, dans ces changements, et à l'origine de notre puissance cognitive, hein, unique au monde. Donc nos connaissances sont insuffisantes en ce qui concerne ces changements, et cela est lié à la pauvreté des modèles animaux, c'est-à-dire qu'on a des modèles animaux qui sont très pauvres dès lors qu'il s'agit d'étudier la cognition humaine, hein, et aussi à l'impossibilité d'expérimenter sur l'homme, enfin jusqu'à maintenant. Alors la démarche, c'est la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher des troubles cognitifs, on part du trouble cognitif, on part de la pathologie, et puis on essaie de comprendre les mécanismes, et ensuite on passe à des organismes moins évolués. Donc c'est une démarche inverse, mais complémentaire de celle que j'ai essayé de vous décrire au cours des dernières semaines. Donc si on part de l'hypothèse que la schizophrénie est une maladie proprement humaine et cognitive, ça peut être discuté, mais c'est le point de vue des auteurs là. Eh bien, ils ont essayé d'identifier des changements évolutifs, donc des sélections positives le long de notre lignage, hein, toujours la même chose, et de les comparer aux changements moléculaires qui accompagnent la schizophrénie. Entre guillemets, la schizophrénie, comme toujours, vous savez, maintenant vous corrigez de vous-même. Avec l'espoir qu'un certain recouvrement donnera accès à des informations précieuses sur l'étiologie et le décours de ces maladies. Alors, sur ce principe, les auteurs ont ramassé un grand nombre de données publiées. Ce n'est pas uniquement leurs données, c'est une méta-analyse publiée. Ils ont testé l'expression de gènes qui montrent une sélection positive de leur expression cérébrale au cours de notre évolution récente. Puis, ils ont vérifié s'il existe une congruence entre les catégories fonctionnelles auxquelles ces gènes appartiennent et les catégories fonctionnelles qui sont modifiées dans les malades. Donc ils sont partis de 16 800 et quelques gènes, 16 815 gènes en l'occurrence, exprimés dans le cerveau, hein, tous, et ils les ont ordonnés à partir de 105 individus, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, donc ils n'ont pas uniquement leurs travaux, mais les travaux d'autres collègues, et ils ont pu découvrir que 6 des 22 grandes catégories de processus qui ont été sélectionnés positivement dans notre lignage sont enrichis de façon significative parmi les gènes exprimés différentiellement entre les individus sains et les individus malades. Hein. Alors, 6, ben, c'est pas mal, mais parmi ces 6 processus biologiques, sont tous en rapport avec le métabolisme énergétique. Et ce n'est pas pour nous étonner, mais parmi les 22 processus sélectionnés, 7 relève du métabolisme. Donc ça veut dire que 6 sur 7, c'est quand même un très très bon score. Hein. Ça veut dire que vraiment le métabolisme est au centre de ces problématiques. Et Pour ce qui est du sens, cette différence, les changements ne sont pas des changements coordonnés. C'est-à-dire, c'est comme si le métabolisme était totalement désorganisé chez les patients, les fonctions métaboliques. Alors, pour aller plus loin, alors c'est ce que vous voyez ici, en fait, vous avez ici les 22 groupes, et vous voyez que, en fait, vous en avez 6 qui sont de l'ordre du, 7 qui sont de l'ordre du métabolisme, mais que parmi ces 7, eh bien, il y en a 6 qui sont modifiés entre les patients et les contrôles. Hein, pour autant qu'un contrôle ce ne soit pas un patient qui s'ignore, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, pour aller plus loin, ils ont étudié par RMN du proton le métabolisme cellulaire au niveau du cortex préfrontal des patients humains. Donc, ils ont pris 10 malades, 12 soi-disant bien portants, 5 chimpanzés et 6 macaques. Voilà. Et à partir de là, ils ont mesuré la concentration de 21 métabolites, dont 20 ont pu être identifiés. Hein. Il y en a un qui n'a pas été identifié, vous voyez ici, unknown, ils ne savent pas ce que c'est. Et la RMN du proton, ce n'est pas forcément idéal, mais enfin, bon, ils en ont quand même 20 identifiés. Et même avec ce nombre qui est quand même petit hein, par rapport aux différents métabolites qu'on peut trouver, ils ont des différences qui apparaissent très très clairement. Je vais y revenir. Différences très clairement, vous voyez par exemple ici entre un malade et un schizophrène et un contrôle, vous avez une différence de l'ordre de 2,3, etc. Donc il y a d'assez grosses différences, et ces différences ne sont ni liées au genre, ni à l'âge, ni à la médication, ni au délai post-mortem. Ça c'est important le délai post-mortem, parce que vous ne prenez pas le cerveau sur l'individu vivant, donc vous attendez qu'il soit mort, et alors là vous allez prendre un bout de cerveau, de cortex préfrontal par exemple, et vous allez regarder ce qu'il y a comme métabolite là-dedans, mais quand le cerveau est mort, si j'ose dire, il continue de vivre, mais à sa façon, c'est-à-dire que ça se dégrade, etc. Donc vous ne pouvez pas prendre des métabolites qui se modifient après la période de mort, juste après la mort. Donc ça, c'est toujours un contrôle, enfin une expérience qui est faite de prendre des métabolites qui sont stables, au moins pendant les quelques heures qui suivent le décès du patient ou de l'animal. Donc, les métabolites les plus altérés sont la créatinine et le lactate, hein, qui sont vraiment des éléments clés du métabolisme énergétique, et la choline et la glycine, très importants dans la neurotransmission, ou encore l'acétate, la choline, la phosphocholine, la glycérophosphocholine, qui sont impliqués dans le métabolisme des lipides et la fabrication des membranes cellulaires. Donc, une approche un peu lourde, mais intéressante. Et si l'hypothèse qui est la leur, qui est aussi la mienne, pour rien vous cacher, que j'ai faite mienne, hein, évolution schizophrénie tient la route, on doit retrouver les 9 composants qui diffèrent le plus, il y en a 9 qui diffèrent le plus entre les malades et les contrôles dans la liste de ceux qui ont évolué le plus rapidement parmi les 22. D'accord ? C'est-à-dire que ceux qui ont évolué le plus rapidement parmi les 22 métabolites doivent se retrouver parmi ceux qui diffèrent le plus entre les malades et les bien-portants, sinon l'hypothèse ne tient pas. Et c'est pas mal. Hein. Vous voyez ici, par exemple, vous avez des massifs. En bleu, c'est Sapiens. Hein. En noir, c'est les malades. En mauve, c'est les chimpanzés. Et en rouge, c'est les macaques. Donc, on arrive quand même à séparer des groupes d'animaux et d'individus en différents états de santé sur la base de la distribution de ces métabolites. Je trouvais ça assez intéressant. Et par ailleurs, pour 8 de ces métabolites, sur les 9 qui évoluent rapidement, hein, le changement est inverse entre l'évolution, c'est-à-dire entre les chimpanzés et nous, et entre nous et nous, je veux dire nous, entre les individus bien portants, je ne prétends pas de l'être totalement, et les schizophrènes. Hein. Alors, en plus, ces 9 métabolites, vous voyez, sont ceux qui ont évolué le plus rapidement. Ça, c'est les 12 autres qui ne sont pas impliqués. Vous voyez qu'ils ont évolué à la même vitesse entre nous et les chimpanzés, mais ces 9 qui sont les plus intéressants ont évolué plus rapidement du côté des humains que du côté des chimpanzés. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous ajoute une autre dimension à laquelle on n'est pas toujours assez sensible, c'est que les gens mesurent le temps comme un temps neutre. Quand on mesure les branches, par exemple, on dit qu'il y a 7 millions d'années entre l'ancêtre commun et Sapiens et 7 millions d'années entre l'ancêtre commun et le bonobo, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que le temps biologique, ce n'est pas forcément le temps physique. C'est-à-dire que si pendant ces 7 millions d'années, ça a muté à une très grande vitesse chez Sapiens, en fait, ça a été beaucoup plus vite de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la distance entre deux espèces uniquement en disant c'est 6 millions d'un côté plus 6 millions. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est uniquement les années qui passent. Mais vous voyez ici, par exemple, on est beaucoup plus loin de ce point d'initial pour les humains que pour le chimpanzé, qui, lui, a assez peu évolué de ce côté-là. D'accord ? Donc, les rythmes d'évolution ne sont pas forcément les mêmes le long de toutes les branches des arbres qu'on vous dessine ici ou là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Donc, pour confirmer donc, le résultat quand même relativement intéressant, qui est pas mal, on peut se tourner vers les gènes qui sont impliqués dans la synthèse ou la dégradation de ces métabolites, et on peut essayer d'étudier leur évolution. Donc maintenant, on va vers les gènes qui sont les gènes de synthèse de ces différents métabolites. Et au niveau des acides aminés, c'est-à-dire au niveau des séquences codantes, la différence avec le chimpanzé est supérieure, très nettement supérieure, pour ces 9 voies, en comparaison des 12 autres. Et il en va de même pour l'expression des ARN messagers, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les séquences, c'est-à-dire que vous avez donc une évolution au niveau des séquences codantes, vous avez une évolution au niveau des séquences régulatrices. Si vous n'avez plus de messagers, c'est que vous avez eu plus de transcription ou moins de dégradation. On a traité toutes ces questions de la régulation de l'expression pendant pas mal d'heures. Donc, vous êtes des experts. Donc, il s'agit là d'une étude très limitée, ça c'est vrai, en particulier par le nombre restreint des métabolites. Mais je crois qu'elle est intéressante parce qu'elle pose bien la question de l'importance du métabolisme énergétique dans le fonctionnement cérébral et le poids que représente pour nous ce fardeau énergétique cérébral. C'est un vrai problème. Donc maintenant, j'ai passé à un article très récent, 2011, de Fu et collègues, vous verrez, qui, lui, suit l'évolution métabolique rapide du cortex préfrontal humain, uniquement du cortex préfrontal. Et ça, c'est le cortex préfrontal humain en bleu. Ça, c'est celui d'un macaque. On a un cerveau beaucoup plus gros que celui d'un macaque, ça, c'est clair. Mais en même temps, proportionnellement, on a un cortex préfrontal qui est encore plus gros. C'est-à-dire que c'est pas proportionné. On a un très grand cortex préfrontal. Donc, il nous rappelle ce que j'ai souvent dit, que les humains consacrent 20% de leur énergie au cerveau, contre 11 à 13% pour un chimpanzé et 2 à 8% pour les autres mammifères. Les singes, c'est 11 à 13%. Donc, ce sont des chiffres qui sont en rapport, bien évidemment, avec la masse cérébrale. Mais ce n'est pas un rapport égal. Parce que on a un cerveau qui est 4 fois plus gros que celui d'un chimpanzé, qui consomme 10% de son énergie dans son cerveau. Donc nous, on devrait faire 40%. D'accord ? Or, on ne fait que 20%. Ce qui veut dire qu'on est vraiment on est limite. Il faudrait qu'on mette 40% dans la machine. Vous allez voir, on n'en met que 20%, mais peut-être qu'on en met 30% dans un côté et puis 10% ailleurs. Donc il y a aussi la distribution de là où on les met, qui est très importante. Donc il reste qu'on est quand même... On a évolué tellement vite au niveau cérébral que c'est possible que le métabolisme énergétique n'ait pas suivi à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas 4 fois plus... Ce n'est pas proportionnel à la taille de notre cerveau. Donc, ça peut poser un problème. Moi, je pense que ça pose un gros problème. Mais j'espère qu'on a fait des économies sur d'autres postes. Parce que, évidemment, on a pu distribuer dans le cerveau, mais on a pu aussi économiser ailleurs. Et vous allez voir, il y a un article qui est sorti cette semaine dans Nature qui est très, très rigolo. Où, et je vous en parlerai la semaine prochaine, on montre qu'on a économisé sur l'intestin. On a un intestin qui consomme moins et un cerveau qui consomme plus. Donc ça, on a fait passer le truc là-haut. Donc ça sera la semaine prochaine parce que c'est la fin des cours et bon, je vous raconterai une histoire comme toujours à la fin des cours, c'est normal. Donc j'y passerai du temps. Et la semaine prochaine, je vous passerai un petit peu de temps sur l'histoire des glies, qui est une histoire intéressante, vous allez voir. Donc, le rôle des glies dans cet apport métabolique. Et je voudrais vous rappeler globalement, si vous voulez, que le rapport Glynneurone est conservé entre nous et les autres primates, mais il pourrait être supérieur dans le cortex préfrontal. Donc ça va avec l'idée que peut-être que même si on n'a que 20% dans le cerveau, ce qui est déjà pas mal, peut-être que dans le cortex préfrontal, on en a mis un petit peu plus pour assurer que ça fonctionne bien à l'avant. Hein. Voilà. Donc c'est une région qui est très très développée dans notre anatomie cérébrale. Et vous allez voir la semaine prochaine, si vous venez. Voilà. Donc je viens de vous le raconter, les changements métaboliques importants sont associés. Est-ce que c'est des causes, est-ce que c'est des conséquences? C'est encore évidemment une question qu'on peut se poser. Au désordre psychiatrique avec les conséquences cognitives. Et la mesure de ces 21 métabolites permet de faire un lien avec les modifications qui sont apparues le long du lignage. Donc, dans l'article que je vous décris maintenant, les auteurs ont mesuré les concentrations de plus de 100 métabolites cette fois-ci et de 2000 protéines dans le cerveau de sapiens, avec 49 sapiens, des chimpanzés, 11 chimpanzés et des macaques, 45 macaques, pris à différents âges et dans des régions différentes, dont le gyrus frontal supérieur et le cortex préfrontal, plus la partie latérale du cortex cérébelleux, c'est-à-dire pas le vermis, c'est-à-dire que le cortex cérébelleux comme contrôle. Et la technique qu'ils ont utilisée autorise une assez bonne résolution, mais elle n'identifie pas les métabolites, c'est-à-dire qu'il faut des standards externes pour savoir sur quel métabolite on est en train de travailler. Donc, la question de l'âge est vraiment une question importante, parce que on ne vit pas tous à le même âge. Hein. Les chimpanzés, ça s'arrête plus tôt, et les macaques encore plus tôt. Et donc, ils ont pris des échantillons de sapiens entre 0 et 98 ans, c'est assez raisonnable, 0 et 40 pour les chimpanzés, et 0 et 25 pour les macaques, 0 et 28 pour les macaques. Hein. Et évidemment, par précaution, ils ont éliminé tous les métabolites dont le taux change post-mortem, dans les 5 heures qui suivent la mort. C'est-à-dire que les analyses sont faites 5 heures après la mort, dans les 5 heures qui suivent la mort, mais uniquement ce métabolite qui reste stable pendant cette période, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, la question de l'âge et de la région dont doit être prise extrêmement au sérieux. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quand on fait ça, les différences entre espèces rendent compte de 49% des variations métaboliques. Donc, il y a 49% des variations métaboliques qui sont liées au fait qu'on est singe ou qu'on est sapiens. D'accord ? Contre 17% pour ce qui est lié à l'âge et 9% pour ce qui est lié à la région du cerveau considéré. Donc ça, c'est les résultats qui sont illustrés ici. Ici, vous voyez, là, ce sont des massifs intéressants. La taille du cercle correspond à l'âge de l'animal. D'accord ? Donc vous voyez que quand on vieillit, on tombe vers le bas, hein, mais on reste toujours séparés. Vous voyez ici, vous avez sapiens, je crois, dans une certaine couleur qui est peut-être un peu mauve ou rouge. Ici, vous avez les chimpanzés. Puis ici, vous avez les macaques qui sont très nettement séparés de nous. Hein. Et dans un cas, c'est pour le cervelet, l'autre pour le cortex, mais je ne sais plus très bien lequel. Il faudra m'excuser. Donc, quel que soit l'âge, donc, les espèces divergent. Hein, et le chimpanzé reste intermédiaire entre le macaque et nous. Donc on retrouve au niveau des métabolites, vous voyez, ce qu'on sait au niveau de l'évolution d'une certaine façon. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ici sont représentées les proportions des 49 et 43 métabolites entre humains et chimpanzés dans le cervelet et le cortex frontal. C'est cervelet, cortex préfrontal, cervelet, cortex préfrontal, cervelet, cortex préfrontal. Et vous voyez que les différences affectent essentiellement ou plus majoritairement le cortex préfrontal que le cervelet. Donc il y a une différence entre le métabolisme qu'on peut avoir ici et celui qu'on peut avoir ici. Et ici, on est plus près des singes et là, on est plus loin des singes. Hein. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Encore que, bon, c'est peut-être pour ça qu'on grimpe moins bien aux arbres. Parce que, bon, le cervelet, c'est quand même l'équilibre aussi. Donc, mais bon, il faut choisir. Donc, cette analyse a été complétée par celle des enzymes correspondantes, comme d'habitude, entre 12 individus de chaque espèce. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les auteurs démontrent qu'on a quatre grandes voies métaboliques qui ont été très accélérées chez nous Et ces quatre grandes voies impliquent quatre fonctions. Un, la potentiation à long terme, c'est-à-dire la mémoire, d'une certaine façon, entre guillemets. Hein. Les interactions ligand-récepteurs, c'est-à-dire les interactions des neurotransmetteurs avec nos récepteurs. Le métabolisme de l'alanine, de l'aspartate et du glutamate. Et le métabolisme de la bêta-alanine. Alors, ce sont des voies qui ne sont pas indépendantes, elles se recouvrent. Elles peuvent partager des gènes, elles peuvent partager des métabolites communs, comme le glutamate, en l'occurrence, dont la concentration est plus faible chez nous quand on est jeune en particulier, que chez les autres primates. Donc, les courbes de concentration aux différents âges, je vous les montre ici. Donc, ils ont quand même pas mal bossé. Hein. Vous voyez ici, par exemple, en rouge, c'est sapiens. Vous voyez que chez le jeune sapiens, il y a assez peu de glutamate. Il augmente son glutamate en vieillissant, se rapprochant du coup du singe, du macaque et du chimpanzé. Mais vous voyez que pour les niveaux d'expression avec l'âge de ces différents métabolites, il y a une grande différence entre sapiens et les autres espèces. Donc, pour résumer, si vous voulez, cette étude, je vous dirais que dans les trois espèces, ce qu'on appelle le métabolome change avec l'âge, ça c'est clair, que nombre de ces changements diffèrent entre les trois espèces, et indépendamment de cette variable âge, la plupart des différences entre espèces restent valables à tous les âges. Donc, le résultat, à mon avis, le plus frappant dans cette affaire, c'est que le facteur 4, approximativement de différence entre le cortex préfrontal et le cortex cérébelleux. Donc ça c'est vraiment net. Il n'y a aucune différence significative entre le cortex cérébelleux de sapiens et des autres animaux. Pour ce qui est du métabolisme, on pourrait argumenter sur le fait que les changements sont liés au style de vie, en particulier au régime alimentaire, hein, ça va de soi. Mais outre que cela ne colle pas avec la différence entre cortex préfrontal et cervelet, hein, si c'était ça, on devrait avoir ça partout, les mesures sont toujours faites chez le même individu, hein, c'est le cortex et le cervelet du même individu. Les auteurs ne trouvent pas de surreprésentation des métabolites associés à une diète ou une activité physique particulière. Donc c'est probablement quelque chose qui a à voir avec l'activité intellectuelle, entre guillemets, du cortex préfrontal. C'est intéressant de s'arrêter 30 secondes sur le glutamate. Parce que le glutamate est un métabolite qui montre une des plus grandes différences dans le cortex préfrontal. Et je rappelle, et j'y reviendrai la semaine prochaine, que la libération et le recyclage du glutamate constituent une voie métabolique majeure qui consomme de 60 à 80% de l'énergie en provenance de l'oxydation du glucose dans le cortex cérébral humain. Donc c'est vraiment au niveau du glutamate que les choses peuvent se jouer de façon extraordinairement forte. C'est une voie qui joue un rôle dans le métabolisme énergétique et dans la neurotransmission. Et si vous en souvenez, parce que c'est le cours précédent, donc c'est vieux, hein, des changements évolutifs ont été démontrés pour le gène qui code pour la glutamate déhydrogénase, qui est une enzyme clé du métabolisme cellulaire. Donc c'est un gène qui a subi une duplication chez l'ancêtre commun aux singes, parce qu'il existe chez les singes et les humains, avec l'apparition d'une enzyme qui s'appelle GLUT2, la glutamate déhydrogénase 2, qu'on partage avec tous les primates. Hein. Mais on doit remarquer qu'un autre changement est intervenu chez nous, avec une activité supérieure du métabolisme du glutamate dans ce cortex préfrontal, mais pas dans son cortex cérébelleux. Donc quelque chose qui s'est passé en plus chez sapiens, qu'on ne voit pas chez les singes, qui ont un cortex préfrontal qui fonctionne comme un cervelet, quoi, en gros. Hein. Les pauvres. Donc, si je reviens sur les chiffres, ces chiffres démontrent une baisse de la concentration en glutamate chez les humains, surtout chez les nouveau-nés, rappelez-vous. Alors, GLUT2 a été optimisé sur le plan évolutif pour métaboliser rapidement le glutamate au niveau des mitochondries. GLUT2 est au niveau des mitochondries et c'est une enzyme qui dégrade le glutamate à toute vitesse. Donc, on peut imaginer que cette baisse de cette concentration en glutamate chez sapiens est liée à un métabolisme beaucoup plus rapide de cet acide aminé. Cet acide aminé qui est aussi un neuromédiateur dans le cerveau. tous les neurones pyramidaux dont je vous parle, les neurones qui partent du cortex et qui vont à de très longues distances, sont des neurones qui fonctionnent avec du glutamate. Je vous ai toujours dit, il y a deux neuromédiateurs dans ce cerveau. Il y a le GABA qui est le frein, il y a le glutamate qui est l'accélérateur. Et le reste, bon, c'est très très peu de choses. C'est important, mais c'est très très peu de choses. Donc le glutamate est un des grands neuromédiateurs du système nerveux. Donc je reviendrai sur cette affaire à propos du lactate et de son rôle à travers sa recapture par les astrocytes, son rôle dans le métabolisme énergétique et aussi dans la fonction synaptique, deux points qui sont évidemment très très liés. Finalement, je demande de ne pas oublier que la technique qui est utilisée par ces auteurs ne donne pas une vue totale du métabolome, des métabolites, et que plein de changements ont pu passer à travers leur crible. Il reste que c'est vraiment la chose à retenir, je crois. Il faut tout retenir, mais s'il y avait une chose à retenir, c'est que l'étude de l'évolution du métabolisme dans notre lignage constitue une voie de recherche d'un extrême intérêt pour les questions qui nous préoccupent cette année. Alors, avant de passer à la suite, je m'attarde une seconde, peut-être ça va être une longue seconde, mais une seconde, sur cette question du rapport entre le nombre de cellules gliales et le nombre de neurones. Et à la controverse d'ailleurs qui accompagne cette étude, à travers le survol rapide de deux articles, un qui est publié en 2006 et l'autre en 2007. Je vais commencer par celui de 2007. Celui de 2007 nous rappelle que la taille du cerveau varie de 1 à 100 000 chez les mammifères et que chez les rongeurs, la taille des cellules augmente avec celle du cerveau. C'est-à-dire que ce qui se passe chez un mammifère, autre que les primates, chez les rongeurs, quand la taille du cerveau augmente, la taille des neurones augmente. D'accord ? Donc, et pas la taille des cellules gliales. C'est-à-dire que vous avez des gros neurones. Donc on peut imaginer que chez un rongeur, un gros cerveau, eh bien, ça implique des gros neurones qui peuvent éventuellement aller porter les potentiels d'action à la distance nécessaire et provoquée par l'augmentation plus loin, quoi, puisque la taille est de l'arborisation est en gros proportionnelle à celle du corps cellulaire. Donc, ces auteurs ont eu l'idée d'aller rechercher chez les singes, qu'est-ce qui se passe chez les singes, et pour voir s'il y avait la même règle de l'augmentation du rapport gli-neurones. Hein. Et donc, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que si on avait la même règle que celle qu'il y a chez les non-singes, chez les rongeurs, par exemple, un cerveau de 100 milliards de neurones comme le nôtre peserait 45 kilos. Donc, c'est comme le film de Gérard Rouri, vous savez, le cerveau. Donc, alors, ce qui est dommage, c'est que cette équipe n'a pas travaillé chez les hominidés, ni chez les chimpanzés. Donc, ça limite un peu la portée de leurs conclusions. Mais en tout cas, il démontre assez clairement, je crois, que la taille du cerveau, bien entendu, est proportionnelle à la taille du corps, ce que vous devez savoir maintenant. Donc, vous voyez, depuis le marmosette, par exemple, qui fait un corps de 361 grammes, c'est pas lourd, il a un cerveau de 8 grammes. Et si vous prenez un macaque qui pèse quand même 3 kilos, 4 kilos, bon, il a un cerveau de 87 grammes. Et, en fait, vous pouvez voir que c'est proportionnel. Vous avez une variation de masse corporelle de 11, de masse de cerveau de 11. Hein. Et puis, vous montez par 10 le nombre de neurones et par 12 le nombre de non-neurones. Donc, en gros, tout ça varie de façon extraordinairement proportionnelle. Vous voyez ici la masse du cerveau et le nombre de neurones avec toutes les espèces qui s'alignent sur une droite tout à fait parfaite, quoi. Donc, chez les singes, en l'occurrence ici, pas chez les hominidés, ni chez les chimpanzés, vous voyez que ce sont des singes quand même un petit peu primitifs, eh bien, on a une augmentation proportionnelle du nombre de neurones et du nombre de cellules non neuronales dans le système nerveux, et que ça est aussi proportionnel à l'augmentation de la taille de notre animal. Donc, quand le cerveau augmente d'un facteur 11, le nombre de neurones augmente d'un facteur 10, et d'un facteur 12, je ne pense pas que ce soit tout à fait précis à ce moment-là, donc ce n'est pas très grave. Donc il conclut, et on peut être que d'accord avec eux, qu'il serait intéressant de faire la manip chez les primates, les vrais, quoi, nous, hein, et les chimpanzés. Même s'ils ne le disent pas, ils prédisent que le résultat va être le même, Parce que sur la base de leur raisonnement, en appliquant la même règle scalaire chez nous et chez les autres, là, pour un cerveau de 100 milliards de neurones, on pourrait prédire un poids de 1,450 kg, donc c'est nous, hein, en gros, et un corps de 72 kg. C'était nous il y a quelques années. C'est un peu plus lourd, mais bon. Ce qui est très proche de la réalité quand même. Hein. Mais ce raisonnement, à mon avis, pêche, hein, parce qu'il ne tient pas compte de la rupture chez les hominidés de la règle de proportionnalité entre le corps et le cerveau, puisque, je vous l'ai souvent dit, nous avons 900 cm3 de trop de cerveau, 900, donc pas mal, hein, 0,9 kg en trop de cerveau par rapport à cette règle de proportionnalité entre la taille du corps et la taille du cerveau. Donc ça, c'est déjà une règle dont il faut rendre compte, bien entendu, on n'est pas proportionnel. Et surtout, des variations entre les différentes régions du cortex, hein, parce que tout ne se passe pas forcément de la même façon dans toutes les régions du cortex. Donc, et en particulier dans le cortex préfrontal. Et de ce point de vue, je pense que l'article de Sherwood, qui est sorti un peu avant, mais qui est en 2006, est assez intéressant, parce que lui s'est amusé à regarder, si vous voulez, chez le sapiens, chez le macaque et chez les chimpanzés, les bonobos, hein, troglodytes, le rapport entre le glie et les neurones dans différentes régions du cerveau. Hein. Vous voyez ici, par exemple, si vous prenez le cortex, ici, là, vous avez les aires de Broca, je pense, un truc comme ça. Non, elles sont là. Je vois rien d'ici, moi. Donc, toujours est-il que vous avez du cortex préfrontal et vous avez du cortex qui n'est pas du cortex préfrontal. Et dans l'aire 44, par exemple, vous voyez que il n'y a pas de différence significative dans ce rapport qui est de l'ordre de 1, ou un truc comme ça, qui oscille entre 1,2 et 0,8, entre le chimpanzé, le macaque et sapiens. Alors que vous avez d'autres aires, hein, et en particulier, vous voyez ici l'aire 4 qui est, que vous avez ici, puis l'aire 9L qui est ça du cortex préfrontal, vous avez des différences nettes et significatives entre le rapport glie-neurone entre les sapiens et les chimpanzés, pour ne même pas parler des macaques, qui sont encore les derniers de la classe. Donc, ça, c'est intéressant. Et si l'église joue un rôle important, ce que nous pensons dans le métabolisme énergétique, il joue un rôle important dans le métabolisme énergétique, cela signifie que ce métabolisme énergétique n'est pas le même dans toutes les régions du système nerveux. D'accord ? À partir de là, les 20% de consommation chez Sapiens peuvent correspondre à 30, voire 40% de plus dans certaines d'entre elles, dans certaines de ces régions, et à moins de 20% dans d'autres régions, ce qui quand même dégage des marges de manœuvre par rapport à la crise énergétique potentielle à laquelle nous attribuons les maladies psychiatriques ou neurologiques sur lesquelles j'ai voulu faire le cours cette année. Donc, je vais maintenant essayer de prolonger la réflexion sur le lien possible entre maladie mentale et métabolisme, en tâchant de mettre les mitochondries dans la boucle, hein, parce que bon, c'est quand même ça les machines à faire de l'énergie, c'est la mitochondrie. Hein. Mais en évitant, parce que c'est trop facile, la maladie de Parkinson, ou les maladies dont on sait qu'elles sont fondamentalement ciblées sur la mitochondrie. Donc, pour ça, il y a deux façons de faire. Hein. La première façon de faire, c'est de s'intéresser à l'instabilité du génome, et la façon dont l'activité des mitochondries est liée directement ou non à la régulation de la transcription au niveau des noyaux et à la stabilité des génomes. Donc ça peut constituer un cours en soi, hein, et ce sera une grosse partie du cours de l'année 2012, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Voilà. Je pensais le voir faire cette année, mais je me suis laissé dériver comme d'hab. Donc une deuxième approche, c'est celle que je vais développer maintenant, consiste à prendre un gène candidat, hein, un gène vraiment dont les gens pensent que c'est un bon gène candidat, à peu près fiable, quoi, et de voir comment son étude pourrait nous amener sur une question qui touche à la physiologie mitochondriale. Donc faire la démarche inverse, même si au départ, rien ne semblait indiquer que c'est quoi que ce soit à voir avec les mitochondries. Et je vais prendre un gène qui s'appelle DISC1, ce qui veut dire Disrupted in Schizophrenia Number 1, qui pensait qu'il allait en trouver 2, 3, 4, 5, mais on est toujours à DISC1, donc voilà. Et là, je vais vous introduire donc ce gène. Alors là, oui, c'est l'évolution, si vous voulez, c'est l'évolution du rapport gli-neurones dans la région préfrontale 9L, dans les couches 2 et 3 de cette région, donc dans des couches où vous avez des neurones pyramidaux glutamatergiques, et vous voyez que ce rapport est beaucoup plus fort chez Sapiens que dans les autres espèces. 1,65, ce n'est pas de la blague. Ce qui veut dire en fait que bon, je ne suis pas très partisan de cette, ce que j'appelle la Gaia Pride. Vous savez, il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent sur les glies, qui pensent qu'on ne fonctionne qu'avec des glies, que les neurones, ça ne sert à rien. Mais moi, j'aime bien les neurones, toujours. Mais c'est vrai que, vous voyez que certaines fonctions intellectuelles sont quand même liées au nombre de glies, et c'est assez normal si les glies contribuent à l'apport énergétique du système nerveux. Donc, voilà. Donc, ce gène DISC1 a été identifié à partir d'une famille écossaise dans laquelle il y a une translocation chromosomique et qui s'accompagne chez les porteurs de la translocation chromosomique de troubles mentaux majeurs, hein, comme dépression, schizophrénie, etc. Donc, c'est une translocation qui conduit à une troncation du gène, voilà le gène complet. En fait, vous avez une troncation de ce gène, et cette partie-là pourrait jouer un rôle de dominant négatif. Elle peut aussi se recombiner avec d'autres régions du génome et avoir ainsi des gains de fonction, en particulier la formation de plaques amyloïdes. Hein. Et puis, vous pouvez aussi perdre complètement la protéine à la suite de la dégradation du fragment qui reste. Donc, ça, ce sont des possibilités qui sont importantes, vous allez le voir, je vais y revenir. Donc, à la suite de son identification dans cette famille, et vous rappelez ce que je vous ai toujours dit, quand quelqu'un vous dit j'ai découvert le gène de la schizophrénie ou le gène de l'autisme, il ne faut pas le croire. C'est-à-dire qu'il a découvert chez un enfant ou dans une famille un gène qui provoque un syndrome de type schizophrénique ou de type autistique dans cette famille-là. D'accord ? Mais il y a probablement un nombre très très grand de façons. C'est comme si vous débranchez le frigidaire, ça ne fait plus de froid. Ça ne veut pas dire que c'est la prise qui fait du froid. D'accord ? En gros, c'est à peu près ça. Donc, il reste que quand vous avez un gène, identifié un gène comme ça, vous pouvez regarder tous les gènes qui sont associés, toutes les conditions qui peuvent faire varier l'expression de ce gène, et donc entrer dans une approche un petit peu statistique, un petit peu plus générale, d'un trouble qui est un trouble qui n'est pas le trouble lié à un gène, en tout cas pas dans toutes les familles. Donc, mais c'est pareil, je vous l'avais dit au début, c'est pareil de la maladie de Parkinson. Hein, il y a 5% de formes de maladie de Parkinson qui sont génétiques. Et pour la maladie d'Alzheimer, c'est pareil, il y a 10% de formes de la maladie d'Alzheimer qui sont aussi génétiques. Les autres sont dites sporadiques, ce qui veut dire qu'on ne sait pas. Voilà. Donc ce gène-là, DISC1, a été identifié, associé à des désordres dans de nombreuses études. Alors, l'association entre DISC1, une mutation de DISC1 et les maladies psychiatriques est relativement faible. Il y a des études de qu'on appelle de genome-wide association. Ces études ne démontrent pas avec certitude une association significative entre DISC1 et la schizophrénie. Ce n'est pas forcément définitif. Et on pourrait dire, bon, ben, on va rester là, quoi. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il existe aussi de nombreuses études qui démontrent un lien entre DISC1 et ce qu'on appelle des endophénotypes associés à des troubles majeurs de maladies de l'esprit, quoi, si on sent plus simple. Donc c'est important parce que les endophénotypes sont des phénotypes intermédiaires héréditaires, par exemple un trouble de la mémoire de travail, hein, qui peuvent contribuer aux symptômes qu'on peut trouver chez des gens dans qui on met la catégorie ou l'étiquette schizophrénie. Donc, il est donc probable que DISC1, tout en n'étant pas un facteur décisif au sens du DMS, hein, Diagnostic and Statistical Manual, pourrait conférer un risque génétique au niveau de ces endophénotypes ou de la construction ou de la physiologie des ensembles neuronaux qui sont affectés dans ces pathologies. C'est à ce titre-là, en fait, que c'est peut-être un gène très intéressant. En parallèle avec les études génétiques, les études cliniques, il y a eu de nombreuses études qui ont donc porté sur ce gène, hein, essayer d'en comprendre quelles en sont les fonctions, hein, au cours du développement et chez l'adulte. Donc, ces travaux ont ouvert des pistes très intéressantes, dont un rôle dans la migration et la morphogénèse des neurones, y compris chez l'adulte au niveau du gyrus denté. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, mais il y a deux endroits dans le système nerveux central adulte où il y a de la neurogénèse chez l'adulte, au niveau des zones subventriculaires qui vont aller faire du turnover de neurones GABAergiques au niveau du bulbe olfactif. Et puis ici, au niveau du gyrus denté, des précurseurs qui vont se développer en neurones glutamatergiques et qui, au fur et à mesure qu'ils maturent, avec leurs fibres qui arrivent comme ça, vont migrer à l'intérieur de l'hippocampe. Donc, ces neurones sont importants. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, j'ai raconté que René Haine, à Columbia University, associe cette neurogénèse à, plutôt cette absence de neurogénèse, au développement possible de troubles dépressifs. En particulier, quand vous mettez... il a montré que si on met certaines classes d'antidépresseurs à un animal, ça s'associe avec de la neurogénèse, et que si on bloque la neurogénèse adulte, on bloque l'effet de l'antidépresseur. Pour certaines classes d'antidépresseurs, pour certaines classes de dépression. Donc, ça, je vous en avais parlé l'année dernière. Et vous voyez, ça, ce sont ces neurones ici qui se renouvellent à peu près tous les deux mois, moins chez l'adulte que chez... Je vous renvoie au cours de l'année dernière, vous les trouverez sur le site. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que dans quand vous regardez la forme de ces neurones, si vous supprimez ou modifiez considérablement à la baisse l'expression de DISC1, vos neurones 1 migrent différemment. En fait, ils migrent beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et surtout, ils ont une exubérance de leur arborisation dendritique qui est très très forte. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus poilus, si vous voulez, que des neurones normaux. Donc, même au niveau de la neurogénèse adulte, ce gène est un gène qui a une certaine importance. Et la neurogénèse adulte, c'est quand même quelque chose qui est aussi important, évidemment, pour notre adaptation à l'environnement. Donc, au-delà de... Une autre piste qui est très, très utile, c'est de regarder quelles sont les protéines qui se lient à DISC1. Et là, vous avez toute une série de DISC1. Vous pouvez regarder toutes les protéines avec lesquelles DISC1 peut interagir. C'est une protéine qui, visiblement, a un grand niveau d'interaction avec d'autres protéines, peut faire des complexes multiprotéiques. Et ce que vous voyez ici, c'est que ces différentes interactions peuvent intervenir avec des protéines qui sont impliquées dans la prolifération neuronale, dans la migration neuronale, dans des signalisations au niveau de la synapse, bien entendu, dans la régulation du nombre d'épines dendritiques. Ça, c'est important, les épines dendritiques, parce que plus vous avez d'épines dendritiques, et en fait, plus vous avez de contacts synaptiques possibles, et puis, évidemment, dans le maintien et la physiologie des synapses. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça prouve que cette protéine peut être au centre, si vous voulez, de plusieurs fonctions physiologiques qui ont à voir, bien évidemment, avec la fonction cérébrale. Ici, vous avez des mutations, et j'attire votre attention sur cette mutation-là. Je ne vois pas d'ici, donc je vais la ressortir ici, parce que c'est... Excusez-moi, je ne suis pas très rapide. Oui, c'est une mutation leucine phénylalanine en position 607 de la protéine et une autre mutation qui est une mutation sérine cystéine en position 704. Donc là, c'est identifié toutes les régions qui vont interagir avec ces différentes protéines. Vous voyez que c'est une longue protéine qui peut interagir avec beaucoup d'autres facteurs. Et celles-là sont importantes parce que la double mutation est commune. Elle est associée à des troubles de caractère psychiatrique, y compris à des dépressions extrêmement sévères. Donc, avant d'arriver à l'article qui m'a incité à vous parler de DISC1, alors que j'avais décidé de ne pas trop parler des gènes candidats, cette année en tout cas, je voudrais l'introduire par ce qui me semble le plus important. Non pas, évidemment, identifier le gène de la schizophrénie, je reviens là-dessus, je vous ai dit ce qu'il fallait en penser, mais en fait des facteurs de susceptibilité qui opèrent à la fois au niveau génétique et au niveau fonctionnel, et qui, selon le cas, et ça c'est l'histoire individuelle qui peut en décider, peuvent ou non pousser dans le sens d'un déclenchement d'une pathologie de type psychiatrique. Par exemple, si vous inactivez disc 1 chez un poisson, vous perturbez le développement des oligodendrocytes, c'est-à-dire les cellules qui font de la myéline dans le système nerveux. Et vous avez un phénotype qui est très proche du phénotype d'invalidation d'une protéine qu'on appelle la neuroréguline 1, qui est un cofacteur de la régulation des récepteurs de la famille HERB, gène majeur, et un gène majeur de susceptibilité à la schizophrénie. Ou dans celle de BAS1, qui est une protéine qui est impliquée dans la maturation du peptide amyloïde, celui qui fait des plaques, vous savez, dans la maladie d'Alzheimer. Donc, cette interaction génétique entre DISC1 et NRG1 a été confirmée dans des souris KO. Si on, si on invalide NRG1 chez une souris, eh bien, il y a une très très forte baisse d'expression de DISC1. Donc, vous savez, vous avez une interaction génétique qui est importante entre deux gènes qui sont des gènes de susceptibilité à ces maladies psychiatriques. Il y a une autre interaction qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle la disbinding. Pas le problème de truc, mais c'est une protéine synaptique qui est codée aussi par un gène de susceptibilité à la schizophrénie et dont la mutation est associée aux troubles cognitifs associés à ces maladies. Donc, la disbinding, elle partage des partenaires avec DISC1. Elle se fixe à des agrégats DISC1 qui sont retrouvés dans les cerveaux post-mortem. Là, il y a deux points qui sont vraiment très intéressants. Est-ce que je peux déborder un petit peu aujourd'hui ou est-ce que ça vous ennuie, hein? Après, je partirai vite parce que... Sauf que nous, il faut qu'on cause deux minutes, mais ça, c'est autre chose. Mais élève Blanchard. Donc, il y a deux points qui sont très intéressants. C'est que la première, c'est qu'il y a probablement des complexes multiprotéiques et donc une masse d'interactions génétiques possibles qui peuvent conduire à des troubles psychiatriques. Hein. Le deuxième point, c'est que ces agrégats de DISC1, hein, donc comme ça, sont trouvés dans le cerveau des malades post-mortem, mais pas dans celui d'individus sains, ceux qui sont morts en bonne santé. Ce qui suggère une possibilité, enfin, au niveau cérébral en tout cas, donc, ce qui suggère une possibilité de troubles psychiatriques qui seraient liés à la conformation de la protéine et à son insolubilité. Et ça, c'est connu dans énormément de maladies neurologiques, comme vous le savez, comme la maladie à prion, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. En fait, presque toutes les maladies neurologiques sont des maladies de la formation d'agrégats de protéines. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une piste, la conformation des protéines, en particulier celle de DISC1, qui implique d'abord, qui montre qu'il y a un continuum entre les maladies neurologiques et psychiatriques et que cette séparation entre maladies neurologiques et psychiatriques est probablement abusive. Hein, et ça, c'est ce que je vous avais annoncé dès mon premier cours. Mais c'est aussi une piste intéressante parce qu'elle montre qu'une des voies d'accès, c'est aussi le contrôle de la robustesse de la conformation de ces protéines. Et donc, ça attire notre attention vers les protéines de choc thermique. Et ça fait un lien, mais je vous dirai pourquoi l'année prochaine, avec ce qui était mon but depuis le départ, c'est-à-dire placer les mitochondries dans la boucle. Mais je vais quand même les placer avant de partir. Hein, parce que sinon, vous seriez frustrés. On ne va pas quitter mon cours frustré. C'est terrible. Donc là, je vais donc terminer avec deux articles publié très récemment, et je commence par un article de Park et collègues qui démontre que DISC1 joue un rôle essentiel dans la fonction des mitochondries. Ces auteurs ont commencé par rappeler, bien entendu, toujours que les mitochondries sont associées à de nombreux désordres neurologiques et psychiatriques, bon, maintenant on le sait. Ils ont donc fait une approche par double hybride pour aller chercher des protéines qui se lient à DISC1, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Ils ont trouvé une que personne n'avait trouvée, qui s'appelle la mitophiline. Hein. Et la mitophiline, c'est important parce que c'est une protéine interne à la mitochondrie. Elle est dans la membrane interne de la mitochondrie. Les mitochondries, elles ont une membrane externe, une membrane interne, parce que ce sont des bactéries qui ont été mangées par d'autres cellules. Donc, vous avez une double membrane, interne et externe. C'est un reste évolutif. Donc, dans cette membrane interne, vous avez la mitophiline, et ça veut dire que DISC1 est probablement dans la mitochondrie. Donc, ils ont effectivement démontré que DISC1 était dans la mitochondrie, et soit en surexprimant DISC1, et on voit ici la membrane externe en rouge, la membrane interne en noir, et vous voyez que vous avez DISC1 qui est à l'intérieur. Ça, c'est après surexpression du gène dans des cellules de type EC, par exemple, je ne sais pas, ouais, sûrement, oui. Ou bien même dans les cellules normales, vous voyez que vous avez DISC1 qui est interne à la mitochondrie. Donc, si maintenant je fais une baisse d'expression de ma mitophiline, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que j'ai une baisse de l'activité de la NADH déshydrogénase, qui est en fait une enzyme qui est importante pour la première étape, si vous voulez, de la chaîne de transfert des électrons, c'est-à-dire de la formation d'ATP. Hein? Donc, Donc, vous voyez ici que je baisse ça avec, en diminuant l'expression de disque 1, aussi en diminuant l'expression de la mitophiline. Et là, je regarde la synthèse d'ATP, vous voyez que si je supprime disque 1, j'ai une grande baisse de formation d'ATP par mes mitochondries. Par ailleurs, j'ai une autre chose qui est très importante de la mitochondrie, c'est que c'est un site de stockage du calcium. Le calcium est évidemment un ion, un cation très important pour tout ce qui est physiologique. Si vous traitez une cellule à la ionomycine, c'est-à-dire un ionophore, vous allez avoir une libération de calcium dans le cytoplasme à partir des mitochondries. Vous voyez ici, zut, le calcium qui sort, et puis vous allez tamponner. Ça, c'est le temps. Hein. Je fais comme ça. Vous allez tamponner, et donc vous allez avoir un pic, et puis ça va baisser très rapidement. Eh bien, si vous faites diminuer l'expression de disque 1 ou de la mitophiline, vous voyez que vous avez une aberration dans le tamponnage du calcium. C'est-à-dire que vous maintenez du calcium dans le cytoplasme au moment où il ne devrait pas y être. Et ça, c'est très dangereux d'avoir trop de calcium dans son cytoplasme. Hein. Donc, ça, c'est assez rigolo parce que ça fait un lien entre une, vraiment inattendu, si vous voulez, entre cette protéine disque 1 et l'activité mitochondriale. Mais ce n'est pas tout. C'est moi continuer. Oui, ça, c'est... Maintenant, je termine donc avec maintenant cet autre papier, qui est le papier de Atkin, qui est sorti en 2011. C'est un tout petit papier, mais vraiment, vraiment sympa, qui suggère que DISC1 régule la migration des mitochondries. Donc ça, il faut que vous sachiez que c'est important parce que évidemment, les mitochondries sont très, très mobiles. Hein, et aussi, sont très plastiques. Les mitochondries, ça se coupe en morceaux, ça fusionne, ça se promène, et en particulier, ça se promène depuis le corps cellulaire jusqu'à l'axone. Et quand c'est dans l'axone, ça y reste. D'accord, donc, ça se promène avec ses messagers sur le dos, on en a parlé. Donc, au début, mais on peut en reparler un jour si vous voulez, mais là j'ai pas le temps parce que j'ai déjà pris du retard. Donc, parmi les points importants de la physiologie mitochondriale, donc, il y a cette extrême motilité et plasticité. Et pour ce qui est de la motilité, les mitochondries migrent extrêmement rapidement le long des axones, des dendrites, et s'ancrent à la membrane dans des sites très particuliers. Hein, en particulier, là où il y a de la signalisation par un facteur de croissance, la mitochondrie vient s'ancrer. Et on peut imaginer que c'est une façon de donner de l'énergie à un endroit où il se passe quelque chose, hein, pas là où il ne se passe rien. Donc, j'accélère. Donc, pour rechercher un rôle possible de disc 1 dans le transport des mitochondries, ils ont pris des neurones de l'hippocampe, ils ont soit augmenté, soit diminué la concentration de disc 1. Et vous voyez ici ce qui se passe. Vous pouvez diminuer disque 1 avec un ARN interférentiel. Hein, ici, par exemple, vous avez diminué disque 1. Et si vous prenez un ARN contrôle, il ne se passe rien. Et là, ce que vous mesurez, c'est en fonction du temps, la migration de vos mitochondries. Vous voyez, chaque fois que vous avez une raie comme ça, c'est la mitochondrie qui se balade. D'accord ? Donc là, normalement, en l'espace de 2 minutes, vous avez une mitochondrie qui est partie d'ici et qui est allée jusque là-bas. Donc là, ça fonce. Ici, si vous prenez un ARN interférentiel contrôle, vous avez toujours les trucs qui foncent comme ça. Et là, vous faites un gain de fonction de disque 1, il ne se passe rien. Mais si vous supprimez disque 1, vous voyez que vous n'avez plus de migration des mitochondries. Donc, ça, c'est vraiment clair. Donc, vous pouvez supprimer disque 1, et puis vous pouvez rajouter, avec le RNAi, puis rajouter du disque 1 dans le transfectant, et vous récupérez la migration de vos mitochondries. Donc, en fait, c'est une protéine qui a l'air d'être impliquée dans la migration. Et vous pouvez mesurer ce mouvement, là, par exemple. Voilà, je mets du disque 1, ça bouge plus vite. Je mets un RNAi, ça bouge moins vite. Je mets un RNAi, je rajoute du disque 1, ça rebouge vite. Hein. Donc ça, c'est assez amusant, mais vous pouvez aussi faire ça avec des formes mutées. Hein. en particulier des formes mutées qui sont trouvées dans des maladies psychiatriques. Et là, voilà ici le disque 1 qui bouge. Là, vous avez RNAi, vous mettez du disque 1 avec une mutation en position 704 sur la cystine, il ne se passe rien, c'est normal. Mais là, vous voyez, si vous remplacez par la forme 607, eh bien, vous bloquez complètement la migration de vos mitochondries. Hein. Et vous vous rappelez, cette forme 607, c'est une des formes qui a été trouvée dans des patients qui ont des troubles psychiatriques et dépressifs extrêmement lourds. Donc, c'est une approche un petit peu indirecte que je vous ai proposée, mais en partant comme ça d'un gène qui a été trouvé chez des patients à la suite d'études génétiques, eh bien, il se trouve que on peut... Ça est très, très difficile, vous imaginez bien, et je sais que je vous fais sentir pendant toutes ces heures qu'on ne peut pas avoir une vision simpliste de ces choses. Mais je suis assez optimiste que ces approches, si on refuse de faire de la simplification abusive sur ces questions, on peut peut-être trouver des liens entre un gène qui sera muté chez un malade et peut-être des processus beaucoup plus généraux, par exemple, quelque chose qui aurait à voir avec le métabolisme énergétique et avec la fonction mitochondriale dont vous êtes maintenant convaincu que je suis convaincu que cela est au centre des problèmes dont nous parlons cette année. Donc, avant de partir, je sais que vous êtes pressé, il est 18h07. L'année prochaine, je ferai des cours d'une heure et demie. Comme ça, on n'en fera que 6, d'accord ? Bon, si vous êtes tous d'accord, on fera comme ça l'année prochaine. Moi aussi, je suis d'accord. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai des cerveaux très gros et puis surtout des problèmes de glie neurone et de comment on peut lier tout ça au sein d'un tableau relativement général. Et je vous présenterai les attendus, enfin, comment je voudrais faire le cours l'année prochaine pour que vous ne soyez pas étonnés quand vous arriverez. Je vous remercie. Thank you.